Bonjour, merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Dans un instant, nous reviendrons sur les temps forts de la semaine avec le duel. Et puis, le débat ce samedi. Une autre fin du monde est-elle possible? La formulation peut vous étonner, voire vous choquer, voire vous sembler absurde. Mais c'est le titre d'un livre récent et qui sait, c'est peut-être une bonne manière, juste en tout cas, de formuler les grands enjeux de la COP26 et de la lutte contre le réchauffement climatique. Puisque pour beaucoup, l'urgence aujourd'hui se résume à une expression, la transition énergétique, qui est remise en cause par certains. Nous le verrons au cours de l'émission. J'ouvre les guillemets. Le moment contemporain n'est pas celui d'une prise de conscience, ni celui d'un sursaut moral conduisant vers une humanité meilleure, une bonne planète faite de géogestion durable, de réconciliation avec Gaïa, le nom de la déesse grecque de la Terre. Nous ne sommes pas soudainement passés de l'inconscience à la conscience. Nous ne sommes pas tout récemment sorti d'une frénésie moderniste pour entrer dans l'ère de la précaution. Fin de citation. C'est l'une des conclusions d'un essai indispensable pour comprendre notre époque et les enjeux écologiques. L'événement Anthropocène était publié il y a quelques années, co-signé par notre invité, qui est chercheur au CNRS, historien des sciences et de l'environnement. Les révoltes du ciel, son dernier livre, est une histoire du changement climatique du 15e siècle au 20e siècle. Et il nous dira pourquoi il faut changer de paradigme, penser différemment la catastrophe annoncée. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes avec Jean-Baptiste Fressoz. Mais d'abord le duel.
France Inter. Le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein, les amis que je suis heureux de retrouver. Salut à tous les deux.
Bonjour.
Et on démarre directement avec un sujet qui concernera le débat et qui concerne notre invité. C'est autour d'une grande entreprise, qui est devenue la 5e valorisation boursière au monde en quelques instants. Écoutez, Flavien Névy, économiste, c'était le 25 octobre.
Le potentiel de Tesla, le potentiel de croissance passera par le développement de modèles qui seront moins chers et qui seront plus accessibles. C'est une stratégie qui est tout à fait pensée, réfléchie et qui fonctionne bien. Ils ont la maîtrise de leur logiciel qui soit à bord de leur voiture et quand il y a un composant qu'il faut modifier, ils peuvent plus facilement s'adapter à la pénurie d'un composant que les constructeurs traditionnels.
Voilà, l'économiste Flavien Névy qui parlait du potentiel de croissance de Tesla, il ne croyait pas à si bien dire puisque le jour même, Hertz annonçait une commande de 100 000 voitures Tesla. 100 000 factures montant total pour Hertz, 4,2 milliards de dollars et Tesla a passé la barre symbolique des 1000 milliards de dollars de valeur en bourse. Dernière information, Elon Musk s'est enrichi en un jour seulement, de 36 milliards de dollars et il a consolidé ainsi sa place d'homme le plus riche du monde. Voilà une page dans l'histoire du capitalisme qui s'est écrite cette semaine. La morale de cette histoire, Gilles?
Vous l'avez dit, c'est la cinquième valorisation à dépasser les 1000 milliards de dollars. Mais les précédentes étaient des groupes qui étaient soit purement numériques, soit comme Amazon dans la logistique. C'est la première fois que c'est un groupe industriel qui dépasse cette valorisation. On peut avoir une première lecture qui est celle de la folie des marchés. Ce que Alan Greenspan appelait l'exubérance irrationnelle des marchés. Et il y a de quoi alimenter cette lecture-là. Les 36 milliards d'enrichissement d'Elon Musk en sont une illustration. Le fait que Tesla ait vendu 1 million de véhicules quand les 10 géants mondiaux en ont vendu 60 millions dans la même période, alors même que en termes de valorisation boursière, Tesla vaut davantage que tous les autres réunis, est une autre illustration de cette folie boursière. Ou encore, je lisais au début du mois de cette année, début 21, un article du Monde qui disait « Pour la première fois, Tesla réalise sur une année complète des bénéfices ». Donc, il y a cette lecture-là et à l'évidence, il y a des excès. Mais je trouve ce qui est intéressant, c'est de savoir s'il n'y a pas une autre lecture qui est, c'est le symbole d'un changement de modèle. Si on regarde Tesla non pas comme un constructeur de voitures, mais comme un constructeur de voitures électriques,
oui,
à ce moment-là, les choses changent. Parce que Je donnais les chiffres tout à l'heure sur l'ensemble des véhicules, mais si on regarde les véhicules électriques, pour le coup, Tesla en vend davantage que tous les autres réunis. Et on voit l'importance de l'avance de Tesla sur ce domaine. Et donc, c'est un sujet dont on discutera avec Jean-Baptiste Fressos tout à l'heure, mais c'est une bonne illustration de ce changement de modèle dans lequel nous sommes entrés.
Natacha Polony.
Pour reprendre la question du changement de modèle, en effet, il y a une dimension, enfin ça nous raconte l'évolution et les choix qui sont les nôtres aujourd'hui d'aller vers l'électrique. Ça nécessiterait d'anticiper les problèmes que cela va poser en termes de batteries, recyclage des batteries, fourniture de terres et métaux rares, etc., etc. Mais de fait, Tesla symbolise cela et d'autant plus que l'entreprise a eu en effet l'intelligence de maîtriser ses composants davantage que la concurrence. C'est-à-dire que pendant que General Motors est obligé de produire 33% de véhicules en moins faute de semi-conducteurs, oui, Tesla a sécurisé ses approvisionnements en dépendant nettement moins de fournisseurs extérieurs. Ça, c'est la première dimension. En effet, nous basculons dans une autre époque. Mais il faut tout de même aussi s'arrêter sur cette dimension complètement folle. Oui, 36 milliards en une journée quand la France produit 7 milliards de richesses en une journée, quand le PIB annuel de l'Estonie est à 31 milliards. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est d'ailleurs très intéressant parce que les États-Unis sont en train de penser là aussi ce changement, alors même que peut-être l'Europe, la France sont en retard sur cette dimension-là. Les États-Unis sont en train de discuter d'une espèce de super ISF, en tout cas d'une taxation de ce qu'on appelle les plus-values latentes, c'est-à-dire justement cet argent qu'Elon Musk a touché, puisque Elon Musk ne se fait pas verser de salaire par son entreprise. Évidemment, il s'agit de ne surtout pas payer d'impôts. Et que du coup, les États-Unis, là, sont sur le point de faire payer, de mettre en place cette taxe sur les plus-values latentes.
Juste une indication pour nos auditeurs, c'est à lire sur le site de Bloomberg. Elon Musk seul vaut plus à lui seul que tout ExxonMobil, le géant pétrolier américain.
Exactement. Et l'idée de la taxation des plus-values latentes, c'est-à-dire en fait cet argent qui n'est pas réalisé, alors évidemment c'est pas une taxation tous les ans, c'est une taxation ponctuelle, mais qui permettrait en effet de contrer ce biais dans la participation des plus fortunés à l'impôt et donc à la contribution commune. La France est très loin de décider de cela et c'est dommage parce que c'est une façon assez intéressante de prendre les problèmes.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres leçons à en tirer, Gilles, à savoir qu'aux États-Unis on a le droit à une deuxième chance? En l'occurrence, l'entreprise de location de voitures Hertz était en situation de quasi-faillite il y a seulement quelques mois. Autre leçon qu'aux États-Unis un homme seul peut révolutionner un secteur entier, c'est le cas d'Elon Musk, et qu'il y a donc, bah, vous le disiez, beaucoup, beaucoup trop d'argent sur les marchés.
Oui, autre leçon, vous avez raison, deuxième chance, et peut-être de manière surprenante, mais les marchés financiers, que l'on accuse souvent, et souvent à raison, d'être à courte vue, ont en l'occurrence accepté de perdre pendant une longue période, pendant de nombreuses années, de perdre beaucoup d'argent avec Tesla, avant d'en gagner beaucoup. Mais au-delà même d'Elon Musk, au-delà même du marché automobile, je crois qu'il y a une autre leçon plus générale sur cette nouvelle économie, ce nouveau monde dans lequel nous entrons, où on voit que de manière surprenante, il vaut mieux partir de rien que de partir d'une entreprise existante. On voit aujourd'hui même les difficultés qu'il y a en Allemagne à assurer cette transition dans le secteur automobile et on voit à quel point les syndicats IG Metall en premier sont en train de freiner parce qu'il y a des conséquences sociales. Tesla, en ne partant de rien, n'a pas de transition à assurer. Il a à penser directement le nouveau système. De la même manière, ça permet de penser complètement différemment. La voiture est conçue différemment en partant du système électrique, en partant de choses dans lesquelles on ne partait pas, et de penser, y compris complètement différemment, et ça vaut pour l'automobile comme ça vaut pour le reste, l'achat. On achète une voiture Tesla sur Internet, on ne va pas dans une concession et la relation client, elle est faite par l'électronique, elle est extrêmement forte, par l'électronique et pas en allant dans une concession.
D'un mot, Natacha ?
Gilles est en train de nous faire l'éloge de la destruction créatrice. En effet, la fameuse destruction créatrice chère à Schumpeter. Et de fait, Tesla pèse maintenant 100 fois plus en bourse que Renault. Ça nous raconte quelque chose qui risque, là, pour le coup, d'être extrêmement douloureux dans beaucoup d'entreprises, notamment européennes. Il serait temps de le penser. Oui.
Le duel continue.
Le grand face-à-face. Le duel.
Avec ces associations, on partage le même objectif, c'est que aucun jeune ne reste sur le bord de la route. Mais effectivement, malgré la reprise, on sait qu'il y a de nombreux jeunes qui ne peuvent pas retrouver seuls un emploi. Donc on va poursuivre nos efforts en 2022 pour aider ces jeunes à choisir un métier, à se former. Enfin, vous savez, il y a plus de 4 milliards d'euros pour accompagner les jeunes dans le budget pour 2022. Donc vraiment, on continue à mettre le paquet, malgré la reprise économique, pour accompagner ces jeunes qui ne peuvent pas retrouver seuls un emploi.
C'était la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Elle était l'invitée de France Inter ce jeudi. Elle revenait sur cette promesse faite par le président de la République d'un revenu d'engagement, un revenu destiné à aider les jeunes sans emploi, des jeunes sans formation. Alors, il y a toujours un effet retard. On ne connaît pas encore les contours définitifs de ce projet, d'autant que le projet devait être intégré au projet de loi de finances qui est actuellement examiné par le Parlement. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui était interrogée sur le sujet, assurait qu'il y aurait des annonces très prochainement. Je mets les mots entre guillemets. Natacha Polony.
Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une difficulté autour de ce revenu d'engagement qui ne serait plus un revenu, mais un contrat d'engagement, parce que contrat, ça fait moins assistanat que revenu, puisqu'en fait, c'est ça le débat au sein du gouvernement, entre un Bruno Le Maire qui s'oppose à cette vision, et donc les promesses d'Emmanuel Macron, qui au départ devait dessiner une forme de revenu universel. On voit que ce n'est plus le cas. On se dirige vers un dispositif qui toucherait 500 000 jeunes, qui finalement regrouperait plus ou moins la garantie jeune, l'accompagnement intensif des jeunes, etc. Donc on a là l'illustration d'une très grande difficulté à traiter cette question, qui est une question d'autant plus importante que le nombre de jeunes en France qui ne sont ni en emploi ni en formation est suffisamment important pour que ça doive nous inquiéter. C'est-à-dire qu'il y a environ déjà 1 500 000 jeunes gens de 18 à 24 ans qui sont en dehors des radars. En fait.
Et un jeune sur cinq qui vit toujours en dessous du seuil de pauvreté.
Exactement. Et le problème est que on peut le traiter, évidemment, par des dispositifs divers et variés pour essayer de raccrocher ces jeunes gens à l'emploi. Le problème se joue sans doute en amont, dans l'échec absolu de l'orientation, dans la difficulté de la France à penser des filières courtes valorisées, à penser l'apprentissage, l'alternance. Et ça, évidemment, c'est de plus long terme que simplement ce revenu qui, lui, a une façon peut-être de régler le problème. Un petit peu plus immédiate et évidente, ce n'est pas illégitime, mais ça ne peut pas suffire.
Gilles.
Natacha Polony évoquait les difficultés de ce débat. Il se passe en fait dans un contexte qui est lui-même une espèce de moment de bascule dans lequel on est à la fois dans la crise et dans la sortie de crise. On a Emmanuel Macron le premier avec cette phrase célèbre « c'est dur d'avoir 20 ans en 2020 ». Pendant le Covid, avait souligné les efforts qui avaient été accomplis par les jeunes et les difficultés dans lesquelles ils se trouvaient. Et on est en même temps dans une sortie de crise avec une croissance qui est forte, un chômage qui régresse et une explosion de la pauvreté qu'on redoutait et qui n'est pas là. Bon, donc c'est dans ce moment-là et ça explique aussi pour partie, au-delà des questions politiques qu'évoquait Natacha, cette hésitation. Mais cette hésitation, elle a aussi un effet, c'est que vous soulignez l'intervention d'Elisabeth Borne. Il y a eu, il faut le souligner, un appel des principes de beaucoup de syndicats, d'associations, de la CFDT, de la FAS, d'Emmaüs et de beaucoup d'autres.
D'ATD Quart Monde.
Pour s'alarmer de ce qui allait sortir et d'un rapport de force qui était en train de se dégrader. Et je crois qu'en fait, il y a des débats qui sont sur deux horizons très différents. Il y a un débat de court terme, celui qu'évoquait Natacha, qui est beaucoup un débat sur de modalités. Emmanuel Macron a fixé un cadre le 12 juillet. On s'adresse, le dispositif est une extension de dispositifs existants. On va passer de 200 à 300 000 concernés, jeunes concernés à 500 000
éventuellement
sur le million, sans doute aux alentours. Autour de ça, il y aura un accent particulier mis sur les jeunes en situation de grande précarité. Tout ça est une amélioration. On peut regretter quand même au passage la manière dont tout ça se fait, parce que ça va rentrer dans le débat parlementaire beaucoup trop tard. Une nouvelle fois, la démocratie parlementaire va être un peu mise de côté. Bon, mais tout ça est... ça va marquer un petit progrès. Et puis il y a un débat, Natacha l'évoquait d'un mot, il y a un débat plus de principes, un débat philosophique, un débat de fond qui va revenir au moment de l'élection présidentielle.
À savoir la solidarité intergénérationnelle.
La solidarité intergénérationnelle. Et qu'est-ce que l'on fait de la jeunesse dans ce pays? Est-ce qu'on peut se satisfaire d'un rapport à la jeunesse qui est un rapport un peu sadique, dans lequel on considère que les jeunes... eh ben, ils doivent en baver pendant un petit moment. Que l'entrée sur le marché du travail, eh ben, c'est chaotique. Oui, il y a un certain nombre de contrats précaires qu'il faut enchaîner. L'entrée sur le marché du logement, c'est difficile. Bon, mais tout ça, ça fait partie du jeu. Donc, ça va être un des débats. On voit que c'est ça va être un débat pour partie qui réactive le clivage gauche-droite et qui passe à l'intérieur même de la majorité présidentielle. Emmanuel Macron avait évoqué il y a longtemps, ça a été abandonné, le revenu universel d'activité. On voit qu'Édouard Philippe ou Bruno Le Maire sont sur une ligne différente.
Polonie, Natacha ?
Ben, je pense que cette question, en effet, dépasse largement celle d'un revenu d'engagement, même d'un revenu universel. C'est la question de l'ensemble de l'organisation de notre système économique et de la protection de fait des rentiers, des possédants, de ceux qui ont déjà le patrimoine. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse largement le traitement immédiat et même la période Covid. Et nous sommes toujours dans ce débat qui n'a jamais été posé réellement en ces termes-là, alors même que quand on se reporte à d'autres époques, par exemple l'après-guerre, on s'aperçoit qu'il y a eu volontairement une façon, j'allais dire, de rembourser la jeunesse du prix qu'elle avait payé pendant la guerre en étant dans un système qui favorisait cette entrée-là. Je crains que le débat, par exemple, sur le revenu universel ne soit une façon d'escamoter cette question et de continuer, en fait, de trouver là un palliatif à cette structure qui est que on protège l'épargne, qu'on protège les possédants et non pas ceux qui sont les entrants dans le système.
Histoire à suivre, le duel continue.
Le grand face-à-face, le duel.
Cette élection, quand vous mettrez-vous dans la tête qu'elle est finie avant même d'avoir commencé? Le vainqueur a déjà été désigné. Proclamé, fêté, encensé, adulé. Il est élu, il n'y a pas à le choisir, il y a à le célébrer. Donc, ça n'est pas la peine, ça n'est plus la peine de vous déranger. Circulez, il n'y a rien à voir.
Concordance des temps avec cette archive, on entendait le président de l'Assemblée nationale de l'époque, Philippe Séguin, avec beaucoup d'ironie, parler de l'élection présidentielle de 1995. Il était devant plus d'un millier de personnes. C'était le lundi 30 janvier 1995 à Bondy, en Seine-Saint-Denis. C'était le premier grand meeting de soutien à Jacques Chirac. Et il brocardait donc ceux qui croyaient que l'élection présidentielle de 95 était déjà jouée et qu'Édouard Balladur était déjà élu. On connaît la suite de l'histoire. Natacha, Gilles, vous vouliez revenir sur la situation que nous vivons au cours de notre campagne présidentielle, celle-ci, celle de 2022. Mais pourquoi cette référence-là, Gilles?
Alors, elle est sans doute excessive au sens où le climat n'est pas le même qu'en 1995. Mais il y a quand même cette petite musique que l'élection et pour partie jouée qu'Emmanuel Macron va être réélu et peut-être un excès de confiance qui gagne une partie des troupes d'Emmanuel Macron qui se projette déjà dans l'après 2022, dans les élections législatives et dans ce qui va se passer après, alors que l'élection n'a pas eu lieu. Alors, d'un côté, si notre émission avait existé il y a exactement 5 ans, la question que nous nous serions posée aurait été « François Hollande va-t-il être candidat ?» Il y avait le livre de La Veille et l'Homme, déjà, il y avait les sondages de popularité qui étaient mauvais, il y avait des primaires qui étaient face à François Hollande. Donc on mesure à quel point la situation est de fait très très différente. Le nouveau livre de La Veille et l'Homme passe relativement inaperçu. Emmanuel Macron est plus populaire et il n'a pas de primaire, donc il va être candidat. Est-il pour autant déjà élu? Je pense que là, il faut être beaucoup plus prudent.
Natacha Polony.
En effet, nous avons appris, heureusement, collectivement, des différentes expériences, même si je suis assez frappée de voir à quel point on se retrouve parfois comme si 1995, 2002 n'avait pas eu lieu. Par exemple, quand on voit un Jean-Luc Mélenchon que des journalistes confrontent à ce sondage disant que parce que le second tour est déjà écrit entre Emmanuel Macron et un candidat d'extrême droite, eh bien, toute une partie de l'électorat de gauche penserait qu'il vaut mieux voter directement Emmanuel Macron. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que l'espèce de concept de vote utile pourrit la vie politique française en troublant et en créant du coup de la frustration derrière.
Pourrit la vie politique.
Parce que à partir du moment où on incite à coup de sondage les électeurs à calculer non et à se dire qu'ils ne vont pas voter en fonction de leur choix politique, mais en fonction de la peur du second tour qui va avoir lieu, eh bien, on crée de la frustration derrière, puisque celui qui sera élu n'a pas été élu sur son programme, mais sur la volonté que l'on avait d'éviter quelque chose de pire. Ça, c'est un point qui me semble absolument essentiel
mais
et
vous
dont
imaginez
il faut
qu'on
se sortir.
Pourrait se passer des sondages complètement et voter
non,
à l'aveugle.
L'idée n'est pas de se passer des sondages. Alors il y a une différence entre se passer des sondages et voter à l'aveugle. Déjà, en effet, il existe un bon usage des sondages et je pense que
Gilles Finkelstein.
Bien entendu, ce bon usage consiste à les considérer avec prudence et par exemple à ne pas considérer que parce que tous les sondages actuellement donnent deux candidats qui arriveraient au second tour, ça veut dire que ces deux candidats seront au second tour. C'est pas ça la question. Et ensuite, la deuxième question, c'est de se dire que le système médiatique doit absolument se réformer dans le sens d'une réflexion sur les sujets de fond et non pas sur le commentaire des sondages. Pardon, ça a l'air d'un truisme, mais c'est tout de même assez terrifiant de voir à quel point on est actuellement de retour dans cette course de petits chevaux qui empêche de penser. Je crois que
Mais c'est le propre d'une compétition et la présidentielle est une compétition entre différentes personnes.
Non, la présidentielle est une compétition entre différentes personnes, mais qui porte des idées. Et la question est de savoir vers quelles idées les citoyens doivent se porter pour se projeter et décider ensemble du bien commun. C'est ça la base. On se moque de savoir si on va projeter que peut-être... machin. J'ajoute un truc. Les règles du CSA vont être problématiques, là aussi, dans ce jeu-là. Par exemple, quand on voit que la parole présidentielle ne sera pas décomptée quand Emmanuel Macron parlera en tant que président de l'Union européenne, ce qui sera le cas à partir du 1er janvier, on se dit qu'il va y avoir là aussi une espèce de jeu de légitimité de parole qui risque d'être assez problématique.
Gilles Finkelstein.
Les comportements électoraux, il y a 30 ans, étaient marqués par la fidélité. Ils sont aujourd'hui marqués par la mobilité, une mobilité qui est extrêmement forte.
La stratégie.
Par la stratégie pour une partie des électeurs et la question
dont parlait Natacha,
et la question du vote utile qui est liée pour partie au traumatisme de 2002, peut-être qu'elle se reposera, en tout cas elle ne se pose pas aujourd'hui. Si on réfléchit aujourd'hui à cette question, est-ce que Emmanuel Macron est-il déjà élu, dont je disais qu'elle était beaucoup plus incertaine, il y a des choses qui dépendent de lui et qui sont difficiles. Le passage du président au candidat ou du candidat-président, comment on fait les deux en même temps, est un passage qui est difficile et dans lequel...
Difficile ou est-ce que ça crée de la confusion, voire un problème de légitimité, comme le disait Natacha?
Non, ça crée de la confusion. Ça crée de la confusion, évidemment, mais c'est comme ça dans toutes les démocraties.
C'est une confusion volontaire, on va dire.
Oui, il y a un moment où on ne sera plus dans la confusion, où il sera candidat, mais il sera en même temps président. Mais ça, ça se passe dans toutes les démocraties. Et ce n'est pas illégitime que le président, au terme de son mandat, vienne rendre compte de ce qu'il a fait, ce qui n'a pas été le cas en 2017. Mais il y a un deuxième passage.
Rapidement, juste Gilles, avant de retrouver notre invité.
Deuxième difficulté qui dépend là aussi de lui, c'est on n'est pas candidat. La question n'est pas de savoir à quoi il est candidat. Il va être candidat à sa réélection. Mais et de savoir pourquoi il va être candidat. Quel est le combat de ce nouveau mandat. Donc ça, ça dépend de lui. Puis il y a des choses qui ne dépendent pas de lui, qui sont aujourd'hui dans l'inconnu. Quelle va être l'offre électorale? Qu'est-ce qui va se passer dans un mois dans la désignation du candidat républicain? Et puis une campagne, toujours, ce sont des imprévus.
C'est pour ça que j'insistais sur la question, par exemple, de la présidence française de l'Union européenne, parce que, pardon, mais c'est un enjeu extrêmement important pour la France. Il y a des dossiers fondamentaux à traiter. Or, voir cet enjeu instrumentalisé par un candidat, par un président qui sera candidat, n'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Il était possible de demander un report de cette présidence. Ça aurait été une forme de dignité et d'attention au bien commun.
La fin du duel. On va maintenant passer au débat avec notre invité Jean-Baptiste Fressoz.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Sauver notre planète ou condamner l'humanité à un avenir infernal. C'est en ces termes que le secrétaire général des Nations Unies présentait il y a quelques jours à peine l'enjeu de la COP26. Et c'est le choix que doivent faire les dirigeants de la planète, à en croire Antonio Guterres, qui insistait sur l'urgence climatique et qui poursuivait des points de bascule irréversibles se rapprochent de façon alarmante, fermez les guillemets, un appel à la prise de conscience, encore un, et peut-être de l'espoir, malgré tout, l'espoir d'une sortie de la crise environnementale, et notamment, essentiellement, par la transition énergétique. Et si la rupture irréversible était derrière nous, dans ce moment bref, exceptionnel de deux siècles de croissance industrielle, et si l'enjeu véritable était pour nous tous d'apprendre à vivre et même à survivre au temps de l'Anthropocène? L'Anthropocène comprenait l'ère de l'homme, l'époque où l'impact des activités industrielles sur la nature est si profond qu'il a fait de l'espèce humaine une force géologique à part entière. Nous allons y revenir avec notre invité, en débattre avec lui. Il est chercheur au CNRS, c'est l'un des meilleurs spécialistes de ces questions, historien des sciences, des techniques et de l'environnement. On lui doit de nombreux travaux de référence, l'événement anthropocène, l'apocalypse joyeuse, j'adore ce titre, ou plus récemment, les révoltes du ciel, une histoire du changement climatique avec Fabien Locher. Bonjour Jean-Baptiste Fressoz.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir et bienvenue dans le grand face-à-face. Beaucoup de questions à vous poser. Un travail de pédagogie d'abord pour essayer de vous suivre quand vous nous demandez de penser différemment parce que nous sommes entrés dans une époque où les anciennes catégories ne sont plus aussi efficaces pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. D'abord, est-ce que les termes sont bien posés par Antonio Guterres pour mesurer les enjeux de la COP26, sauver la planète ou condamner l'humanité à un avenir infernal?
C'est simpliste, parce que c'est pas l'humanité qui est condamnée à un avenir infernal. Le caractère très injuste du changement climatique, c'est qu'en fait c'est une petite partie de l'humanité qui dérègle la planète et les impacts se font sentir de manière très différenciée. C'est très différent si vous êtes riche dans un pays riche ou bien pauvre dans un pays du Sud. Donc c'est pour ça en fait qu'il y a une forme d'inaction assez triste en fait. C'est que concrètement le changement climatique, ça va d'abord toucher les pays pauvres qui ne sont pas responsables de ce phénomène-là.
Mais on peut vous répondre, prise de conscience.
Alors, prise de conscience.
Nous avons enfin pris conscience, Jean-Baptiste Fressoz, depuis quelques années, de l'urgence climatique, de la catastrophe qui était devant nous si nous n'agissions pas.
Alors, ça, c'est une tarte à la crème, en fait, effectivement, du discours écologique. C'est on prend conscience, on a pris conscience. Ce qui me frappe, c'est que, en fait, on prend conscience depuis au moins deux siècles de cette affaire-là, quoi.
Au moins deux siècles.
Au moins deux siècles, ouais. C'est-à-dire que dans les archives, on voit qu'il y a des tonnes d'enquêtes, de rapports, de recherches sur le changement climatique depuis le début du 19e siècle, en fait. Donc c'est une question qui est assez ancienne, qui se reconfigure. À l'époque dont je vous parle, début 19e siècle, la question c'était la déforestation. Est-ce que quand on coupe les forêts, on change pas le climat? C'était une vraie question, c'est-à-dire que c'est le ministre de l'Intérieur qui demande des enquêtes, tous les savants y réfléchissent et en parlent. Et puis surtout, ce qui est impressionnant, dans les archives, on voit qu'en fait, c'est une question qui est partagée par tout le monde. C'est-à-dire que c'est le médecin local, l'administrateur, le maire, le préfet qui va réfléchir à cette question du lien entre déforestation et changement climatique. C'est pas simplement une affaire de savants. Et on en parle à l'Assemblée nationale régulièrement au 19e siècle.
Donc rien de nouveau sous le soleil, on va y revenir justement à cette histoire et au temps long, j'exagère.
Encore, c'est pas le même changement climatique que maintenant.
Évidemment, du 15e siècle au 20e siècle, beaucoup de choses se sont passées. Petit travail de définition avant de passer la parole à mes camarades. Anthropocène, c'est un mot qui a de plus en plus d'importance pour essayer de comprendre notre époque, et je l'ai sans doute trop rapidement défini, mais disons que...
C'est une nouvelle époque géologique qui est marquée par la prédominance de l'homme sur le système Terre. Le point intéressant d'Anthropocène, qui a aussi énormément de problèmes, mais le point intéressant, c'est que ça décrit bien que ce qu'on vit, c'est pas simplement une crise environnementale et qu'on va pouvoir sortir de cette crise environnementale. Donc c'est un nouvel état de la Terre qui va durer des centaines de milliers d'années et, à vrai dire, quoi qu'on fasse, le climat va se réchauffer, en fait. C'est ça que...
C'est-à-dire que nos activités, les activités industrielles humaines sont tellement profondes qu'elles ont fait de l'espèce humaine une force géologique à part entière.
Ça dit en fait que pour trouver des choses qui agissent aussi fortement sur la planète que nous-mêmes, il faut remonter à l'échelle des temps géologiques. C'est surtout une vertu esthétique et pédagogique, parce que si je vous dis le nombre de parties par million de CO2 est passé de 280 à 410 parties par million entre l'ère pré-industrielle et maintenant, tout le monde s'endort. Si je dis qu'il n'y a jamais eu autant de CO2 depuis 3 millions d'années, on comprend qu'il se passe quelque chose de très grave sur la planète. Donc c'est ça en fait la force du concept d'Anthropocène, c'est que ça dit en un mot quelque chose d'assez profond. Après, le problème, c'est que ça charrie avec lui tout plein de discours néo-malthusiens sur c'est l'espèce humaine, quoi. Parce qu'évidemment, cet anthropos, c'est quoi? C'est l'espèce humaine en tant qu'espèce biologique.
Il faut bien désigner des coupables.
Or, là, en vérité, cette affaire de changement climatique, c'est un truc qui est très différencié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une espèce humaine qui est collectivement responsable.
Natacha Polony, puis Gilles Finkelstein.
Alors justement, votre livre, Les Révoltes du Ciel, est absolument passionnant. D'abord, merci. Parce qu'il se lit de façon... Enfin, comme un roman d'aventure, je dirais. Donc je vous conseille à n'importe qui de le lire. C'est absolument formidable sur la façon dont se sont posés très tôt les débats sur le climat et sur le rôle de l'homme. Vous montrez... très bien à quel point d'abord il y a une vision globale des choses très tôt, et surtout ce qui m'a frappé, c'est l'intrication en fait entre la conception que l'Europe peut avoir de la science, la colonisation, le profit. Et en fait, tout cela s'entremêle pour modifier la façon dont on va lire l'impact de l'homme sur le climat, et notamment dans la façon dont on conçoit la conquête du nouveau monde. Peut-être pouvez-vous nous raconter comment cette question de la vision que les Européens ont de la science et donc de la puissance de l'homme sur la nature bouleverse complètement à ce moment-là la lecture qu'on a du climat.
Effectivement, le moteur de cette affaire au départ, c'est la colonisation de l'Amérique. En gros, comment on explique qu'il y a de telles différences de température entre l'Amérique et l'Europe à même latitude? Et la meilleure explication qu'on a à cette époque, c'est d'un côté, on n'a pas encore travaillé la terre, on n'a pas déforesté, et donc on n'a pas encore amélioré le climat. Et donc c'est un argument très fort pour justifier l'appropriation des terres. C'est ce qu'on a avec Fabien, c'est que vraiment cet argument du changement climatique, c'est pour dire finalement les Indiens ne possèdent pas vraiment cette terre puisqu'ils ne l'ont pas vraiment travaillée. Donc les Européens, les chrétiens sont légitimes pour se l'approprier. Donc c'est vraiment un argument d'abord optimiste et impérial sur l'Amérique. Et l'histoire va se développer, et à la fin du XVIIIe siècle, le discours sur le changement climatique devient une forme de catastrophisme. Ça permet d'expliquer l'effondrement des civilisations orientales. Il y a un fort discours raciste, au fond, sur pourquoi, par exemple, les ruines de Babylone, au milieu d'un désert. Oui. Comment on explique ça? Une civilisation prospère, des jardins luxuriants qui sont maintenant au milieu d'un désert, c'est parce qu'ils ont déforesté, ils ont mal géré leur environnement, ils ont produit une transformation de leur climat qui produit en retour une dégénérescence de leur race. Parce que c'est un moment aussi où le climat est beaucoup plus important que pour nous maintenant, parce que il façonne tout. Il façonne le vivant, les humains, les corps, il façonne les sociétés. Pensez à Montesquieu, ce genre de choses, de déterminisme climatique assez crasse. Et donc, en fait, c'est vraiment un discours qui est partout, quoi, qui est chez les intellectuels, chez les historiens, et puis chez les savants et les hommes politiques. Parce que c'est une notion hyper importante.
Mais quand est-ce que on peut dater le moment de bascule? Est-ce que c'est vraiment à la conquête des Amériques? Faut remonter à Christophe Colomb. Est-ce que c'est l'invention de la machine à vapeur avec Watt et qui va permettre le développement d'une économie techno-industrielle, une économie monde capitaliste?
Vous voulez dire le moment de bascule de l'Anthropocène, quoi.
Voilà, le moment dans lequel on peut se situer pour trouver un point de repère et comprendre l'époque que nous vivons.
Ouais. Alors, il y a tout plein de débats parmi les scientifiques là-dessus, parmi les géologues. Alors, ça qui est bien, c'est que la notion d'anthropocène a été vite ramenée à une question, c'est quoi le marqueur dans les roches, dans les sédiments, ce qu'on appelle le marqueur stratigraphique, qui dit, voilà, on est rentré dans une nouvelle ère. Et les géologues, c'est pas la communauté la plus écolo, a priori, hein, leur job, c'est plutôt de sortir des fossiles du sol. Et donc, finalement, pour les convaincre, il faut un truc très, très costaud et solide. Et la chose la plus simple, c'est en fait ce qui se passe dans les années 50 du 20e siècle. Donc c'est sans doute cette date-là et ce marqueur-là qui va être retenu, avec, il y a plein de marqueurs faciles, quoi. Déjà, la radioactivité qui augmente drastiquement, pour des raisons qu'on connaît, le plastique, les grandes infrastructures en béton, certains disent même les eaux de poulet, vous voyez, alors, parce qu'il y a beaucoup plus de poulets que d'oiseaux sauvages, oui. Évidemment. Et donc, ça devient un truc un peu délirant de science-fiction. Qu'est-ce qu'un géologue dans un million d'années pourrait retrouver dans les roches de notre existence actuelle? Bon, c'est pas le débat, c'est assez amusant, c'est pas un débat très, c'est un peu scolastique quand même cette affaire.
Gilles Finkelstein. Alors,
chose qui est passionnante dans vos travaux, c'est de montrer à quel point la réflexion sur le climat est une réflexion ancienne et beaucoup plus ancienne que ce à quoi on pouvait s'attendre. Et comment non seulement cette réflexion est ancienne, mais la réflexion sur l'impact de l'activité humaine sur le climat est ancienne. Mais vous l'avez dit, au départ, c'était dans l'idée que l'homme pouvait améliorer le climat. Et il y a eu un premier basculement en disant l'activité humaine, elle ne vient pas améliorer, mais elle peut venir dégrader le climat. Dans, si on est sur une période plus récente, disons sur les 20, 30, 40 dernières années, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les rapports du GIEC, des premiers jusqu'au plus récent, à la fois sur les questions de la connaissance, sur les questions des opinions et de la prise de conscience? Est-ce que c'est vraiment seulement une tarte à la crème ou est-ce qu'il se passe quelque chose dans les opinions mondiales et dans les changements de politique et de pratique?
Alors, ça fait trois questions.
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Oui, Jean-Baptiste Fressouze, mais c'est la spécialité de Gilles.
D'accord. Alors, sur ce qui est nouveau, bon, déjà, le changement climatique qui nous concerne maintenant, c'est le cycle du carbone, c'est pas le cycle de l'eau. Donc, c'est une question qui est différente. Alors, cela dit, la conscience qu'on altère le cycle du carbone, elle est elle-même ancienne. Au 19e siècle, il y a des travaux de chimistes qui s'intéressent à ces questions de qu'est-ce que devient le carbone qu'on émet, etc. Donc, c'est des questions qui se posent. À partir des années 1860, on a des travaux qui montrent que le carbone dans l'atmosphère a un rôle, l'effet de serre, si vous voulez. À partir des années 1930, on commence à avoir des travaux qui relient cette théorie avec des mesures thermométriques dès l'entre-deux-guerres. C'est pas encore très très fort, mais ça existe. Dès 1954-55, on sait que l'essentiel du carbone va rester dans l'atmosphère et ne se dissout pas dans les océans. Donc ça, c'est des papiers essentiels de Revel et Suez qui montrent que oui, ben, y a un vrai problème puisque ça reste dans l'atmosphère. Dès 58, Edward Teller, qui est le père de la bombe H, qui est un savant atomiste, et ça, c'est un rôle important parce que au départ, le discours du changement climatique est un discours de propagande pour l'atome, en fait, hein, de l'Atomic Energy Commission américaine. Ça sert à vendre l'atome comme solution énergétique à tous nos problèmes. Edward Teller avertit les compagnies pétrolières en disant, il y a un sujet sur le CO2, sur l'effet de serre et sur le changement climatique. Là, on est en 58. Dans les années 60, on a des rapports qui commencent à être remis au président américain, 65. Hein. Et donc, c'est pour ça que l'idée de dire, oui, là, c'est très nouveau, non, enfin, il faut arrêter. Ça fait déjà maintenant 40 ans qu'on a de la science assez solide.
Et puis, il y a 1971, en l'occurrence, c'est ce qu'on a découvert récemment autour de Total et Delph, qui, comme d'autres grandes compagnies pétrolières, étaient conscients des conséquences néfastes de leurs activités. Dès 1971, ça fait 50 ans, et ils ont entretenu le doute, ils ont tout fait pour limiter le recours aux énergies fossiles, et c'était un article scientifique qui a été publié
c'est
il y a
mon
quelques
ami
jours.
Et collègue Christophe Bonnet avec qui j'ai écrit l'Anthropocène. Voilà. Mais alors, le truc qui me surprend, c'est que ça vous surprenne, quoi. Et c'est ça qui est triste. Ben oui, le truc le plus surprenant dans cette affaire, c'est que les médias, la presse, disent « Oh là là, Total savait en 1971 ». Bah, évidemment qu'ils savaient. Enfin, je veux dire, c'était de la science qui était dans les journaux, qui était dans le New York Times, il y a des articles, il y a un film en 1957 qui est produit par Frank Capra sur cette question-là. Enfin, faut arrêter de se croire que c'est tout nouveau, quoi. Donc, et d'ailleurs, la réponse de Total a été de dire, bah oui, on savait ce que les scientifiques nous disaient. La question intéressante, c'est pas tant 1971 que le moment climato-sceptique de Total qui a été assez bref. Je me souviens plus les dates, mais je crois que c'est 86-93, ou pendant quelques années, effectivement.
87-94.
Bon, ouais, je me trompe, mais en gros, ils ont joué le jeu, effectivement, d'Exxon, etc. Mais le truc, le vrai problème, c'est en ce moment. Donc, arrêtons-nous. La question, bah
justement,
c'est
qu'il faut encore,
il faut encore de la recherche et développement de la recherche et exploration pétrolière maintenant. Alors, et tout le monde sait pour le coup qu'il y a un problème, etc. Donc, c'est pas une question de on savait pas, j'ai envie de dire.
Natacha Polony, et puis j'aimerais bien qu'on parle de la transition énergétique.
Alors, justement, j'allais y venir. Nous discutions tout à l'heure de Tesla et de du symbole que constituait la toute puissance de Tesla, mais vous avez produit un article sur la question de la transition énergétique pour montrer que il y aurait une sorte de vision un petit peu naïve de certains sur l'idée que on passe d'une énergie à une autre et que donc on a abandonné le bois pour aller vers le charbon, puis le charbon pour aller vers le pétrole, et donc ça se continuerait maintenant où on se dit on va décarboner, on va abandonner le pétrole et on va aller vers l'électrique et ce sera formidable. Et en fait, quand on vous lit, la question qu'on se pose, c'est mais tout cela se cumule, en fait. Plus on trouve de nouvelles énergies et plus on consomme les précédentes. Donc, quelle est la solution? Est-ce que la solution, c'est avant tout, j'allais dire, la décroissance, même si le mot a mauvaise presse? Est-ce que on peut penser maintenant un changement véritable des usages ou est-ce qu'il faut de toute façon limiter la consommation énergétique?
Jean-Baptiste Fressoz, nous attendons beaucoup de vous.
Ouais, voilà, avant de prétendre qu'il y a une solution, parce que est-ce qu'il y a une solution, c'est pas évident, en fait.
Non,
déjà, avant de parler de la solution, parlons de Tesla 30 secondes. Tesla, effectivement, c'est un symbole, mais ce n'est qu'un symbole. C'est-à-dire, si vous remplacez les voitures à essence par des voitures électriques qui pèsent 2 tonnes, qui ont des batteries de 800 kilos, en fait, vous avez pas vraiment changé les termes du problème. En gros, quand on parle des voitures zéro émission, en fait, on devrait parler des voitures demi-émission. Et puis, en fait, la question, c'est pas tant le moteur électrique qui en lui-même est très performant, etc. C'est toute l'infrastructure qui va avec. Si vous avez des voitures, vous avez besoin de routes, que je sache. Non, ça n'a pas grand intérêt. Ces routes, c'est du ciment. Le ciment, on sait pas faire sans émettre beaucoup de CO2. En gros, c'est chaque tonne de ciment, c'est 0,6 tonnes de CO2. Donc, en fait, la question, c'est pas tant quel moteur on va mettre dans la voiture que essayer de se passer au maximum de la voiture. C'est ça le vrai sujet. Donc, si vraiment, c'est un bon exemple, effectivement, de symbiose énergétique. Le Tesla, c'est pas le symbole d'une transition, pour moi, du pétrole vers l'électrique. C'est pas vrai.
C'est pas vrai.
Tesla a besoin de beaucoup de charbon pour construire ses voitures, et le réseau autoroutier a besoin d'énormément de charbon et émet énormément de CO2 pour que les voitures de Tesla puissent rouler.
Mais alors l'expression de transition énergétique, puisqu'aujourd'hui c'est présenté comme la solution à beaucoup des problèmes liés au changement climatique, on entendait encore récemment le président de la République, Emmanuel Macron, parler de sa France de 2030, et notamment des questions énergétiques, et notre avenir serait lié à un mix énergétique où le nucléaire garderait une place importante, mais avec d'autres énergies et renouvelables. Celle-là, est-ce que cette expression de transition énergétique, elle a un sens et lequel ?
Alors, elle a un sens en relatif, dans le sens où il y a des énergies qui deviennent dominantes. Elle n'a pas de sens en valeur absolue. Les énergies ne disparaissent jamais. On n'a jamais consommé autant de charbon que maintenant, on n'a jamais consommé autant de pétrole que maintenant, on n'a jamais consommé autant de bois que maintenant. Donc ça, c'est déjà le premier. Historiquement, ça n'a aucun sens. Le problème de transition, c'est qu'en fait, ça projette une histoire fausse sur un futur, parce qu'en fait c'est ça l'idée, ces transitions, c'est on a eu des transitions par le passé, on va faire une troisième ou une quatrième transition, et ça va résoudre les problèmes.
Pourquoi une histoire fausse ?
Parce que historiquement, il n'y a pas eu de transition énergétique. En gros, l'idée, c'est que le capitalisme et l'innovation a géré des transitions, mais en fait, il a surtout produit des symbioses entre les énergies et les matières. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de transition. C'est qu'une fois encore, plus vous consommez de charbon au 19e siècle, plus vous consommez de bois, ne serait-ce que pour boiser les galeries des mines.
Donc, on ne sortira pas des énergies fossiles.
Ça va être très très long si on y arrive. Voilà.
Gilles.
Et en tout cas, si on reste sur ce modèle actuel de, bah oui, il faut des voitures électriques pour remplacer les voitures à essence, ça va être très 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 long si ça arrive.
Vous disiez la spécificité de la question d'aujourd'hui, c'est le cycle du carbone. Et vous disiez, évidemment, sa spécificité, c'est qu'il reste dans l'atmosphère. Et donc, là où on raisonne en flux, en réalité, il faudrait là-dessus raisonner en stock. Daniel Cohen utilisait l'image d'une baignoire qui se remplit, et en fait on sait que si elle se remplit à un certain niveau, eh ben ça finit par déborder. Mais est-ce que quand on réfléchit à la transition énergétique, ça ne veut pas dire tout simplement, c'est très compliqué à mettre en œuvre, mais tout simplement que il faut se résoudre à ne pas exploiter jusqu'à la dernière goutte le pétrole et le gaz qui est dans nos sols?
C'est même pire que ça, c'est qu'il faut laisser le trois quarts des ressources fossiles dans le sol pour pas dépasser les fameux 2 degrés en 2100, les trois quarts en fait. Et c'est pas des ressources, c'est même pas les pétroles lourds, les choses compliquées à extraire, etc. Non, c'est les pétroles que, a priori, les compagnies pétrolières pensent sortir. Et d'ailleurs, c'est pas que les compagnies, et les États. Donc oui, non. La question, c'est pas du tout le pic. Ça, c'est un truc vraiment important. Longtemps, l'écologie s'est focalisée. Enfin, c'est pas dire l'écologie.
Sur ce qu'on appelle le pic de
Hubert. Le pic du pétrole, le pic de Hubert, effectivement.
Ce moment où l'on atteindrait une pénurie exactement, dans la ressource.
Et là, ça revient avec la fameuse crise énergétique qu'on vit en ce moment, etc. Mais ça, c'est vraiment une illusion. C'est-à-dire, on va rencontrer un mur climatique bien avant la question du pic. Ouais.
Natacha.
Je reviens un instant sur le livre Les Révoltes du Ciel, parce qu'en fait, le voyage dans le temps que vous nous faites faire permet aussi d'éclairer le problème d'une façon intéressante. Par exemple, il y a un chapitre absolument fabuleux sur les débats autour de la gestion des ressources pendant la Révolution française. Et vous montrez très bien comment la façon dont on pense la ressource en bois, ce qui est considéré comme des vols à partir du moment où on explique qu'on a aboli les privilèges, donc les nobles n'empêchent plus l'usage de la ressource, mais du coup c'est l'État qui prend la suite en considérant que les paysans viennent piller les bois, viennent braconner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la perception qu'on peut avoir de la préservation de l'environnement est éminemment liée à l'organisation politique, aux structures économiques qui possèdent, pourquoi il y a un débat absolument génial sur la privatisation ou pas des forêts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut penser la question environnementale en lien avec la question de la répartition des richesses et de l'organisation politique.
Et du système de domination, en l'occurrence. Alors, c'est ce sur quoi vous terminiez votre livre sur l'événement anthropocène,
Jean-Baptiste. Alors, sur la question des forêts pendant la Révolution, effectivement, c'est un peu le tournant de notre histoire, quoi. C'est-à-dire, c'est pendant la Révolution que le discours du catastrophisme climatique, de l'effondrement à venir climatique, émerge et se diffuse, parce que, en gros, l'État français se retrouve dans la situation d'avoir à gouverner un peuple de paysans libres. Et c'est pas simple. Et donc, en gros, comment on fait? Ben, il faut les convaincre de respecter les bois. Les paysans estimaient qu'en fait, ils avaient été expropriés de ces bois dans les années 1760. C'est vrai que les aristocrates avaient eu tendance à transformer les forêts en usines à bois. Le prix du bois augmentait, donc ils se réapproprient finalement ces forêts. Et donc, il y a tout un discours savant et semi-savant à destination du peuple des campagnes, expliquant que l'arbre joue un rôle essentiel dans l'ordre naturel, dans cet ordre magnifique que Dieu a créé, etc., qui est aussi un ordre climatique. Donc, c'est vrai que la Révolution française joue un rôle important, d'autant plus important que peu de temps après, on a la colonisation de l'Algérie. Et là, le discours du changement climatique va être interprété par les colonialistes français en disant on va venir restaurer le bon climat de l'Algérie parce que les Arabes ont fait une catastrophe, l'Arabe est l'ennemi de l'arbre, etc. Et donc, nous, on va régénérer le climat algérien. Donc, et après, à partir de là, le discours-là se diffuse en fait dans tous les empires coloniaux.
Oui, vous parlez de l'Empire britannique, notamment.
L'Empire britannique, en Afrique, en Inde, etc. On a le même discours sur la régénération par la colonisation.
Mais du coup, pardon, je prolonge, parce que en lisant cela sur la question des paysans libres et la façon dont on les gouverne, moi, j'ai eu en tête les débats autour des gilets jaunes. Mmh. C'est-à-dire la question de savoir comment on arbitre pour faire comprendre à une population qui a besoin de boucler les fins de mois, qui est dans un système, qui est prise dans un système, comment on fait comprendre qu'il y a des enjeux écologiques, et on voit poindre chez beaucoup la tentation de cette espèce d'hypercentralisation où en fait ce serait l'État qui dirait écoutez, maintenant on vous interdit des trucs parce que vous êtes incapable de respecter la nature.
Jean-Baptiste Fressoz.
Je pense qu'on a un peu trop lié la question des gilets jaunes avec la question des quelques centimes du diesel. Je pense que c'est un peu une illusion. C'est un truc beaucoup plus profond qui était lié au rapport avec le pouvoir politique. Et
bien sûr, mais derrière il y a la question de démocratie et environnement.
Oui,
comment on gère un environnement démocratie.
En démocratie. Alors, en plus, l'autre question, c'est qu'en fait les gilets jaunes ne sont pas du tout ceux qui mettent le plus de CO2. A priori, c'est les gens qui ont moins d'argent. Donc tout ça est assez biaisé, en fait, si on le présente.
Je voudrais revenir sur la question de la transition énergétique, qui est quand même une question centrale. Vous disiez tout à l'heure, quoi qu'on fasse, le climat va se réchauffer. Et quoi qu'on fasse, le climat va se réchauffer. Mais vous convenez évidemment que selon que c'est 1,5 degré, 3, 5 ou 7, c'est pas exactement la même chose pour les générations futures. Si on part de l'idée optimiste, même trop optimiste, que on ne va pas exploiter jusqu'au la dernière goutte le pétrole et le gaz qui sont dans le sol, et qu'il va donc falloir organiser cette transition énergétique et substituer aussi rapidement que possible une autre source d'énergie. RTE a sorti cette semaine un rapport très important après deux années de travail, après un rapport assez transparent dans lequel les hypothèses sont mises sur la table, dans lequel différents scénarios de mix énergétique, de mix électrique sont proposés.
RTE, il faut juste rappeler que c'est le réseau de transport électrique français qui dévoilait donc lundi cette semaine six scénarios pour atteindre la neutralité carbone.
Voilà. Alors, il y a plusieurs lectures qui ont été faites de ce rapport et d'une certaine manière, c'est très bien. En tout cas, ça montre que cette transition est techniquement possible, c'est-à-dire qu'on peut faire la transition en assurant la sûreté de l'approvisionnement en électricité pour les Français. Et ça, c'est la lecture optimiste. Et puis, il y a une lecture pessimiste aussi qui vient peut-être alimenter les interrogations qui sont les vôtres, qui est, on voit à quel point ça va être difficile. À quel point c'est un défi, même si on est dans le scénario, on relance le nucléaire, on voit qu'en réalité, c'est très difficile de garder, ne serait-ce que 50% de nucléaire dans la production d'électricité française, et à quel point tout de suite, la transition vers les énergies renouvelables est difficile, parce que il y a des conflits sur l'usage et qu'il va falloir développer de manière très importante. C'est quoi le regard que vous avez porté sur ces travaux?
Et alors, justement, j'indique pour nos auditeurs que sur les six scénarios envisagés par RTE, il n'y en a qu'un seul qui imagine qu'on puisse se passer du nucléaire.
Premièrement, faut relativiser l'importance de ce dont on discute. On discute de la production électrique qui est déjà très peu carbonée en France, donc c'est pas très important au fond ce débat. La question c'est le nucléaire ou les renouvelables, qui est un débat intéressant, je dis pas, mais qu'il n'y a pas tant de choses à voir que ça avec le climat. Parce qu'on parle pas, je sais pas moi, de la production d'acier, on parle pas... En gros, l'électricité c'est qu'une toute petite partie, enfin c'est que 30 ou 40% de notre mix énergétique, donc on parle pas de tout le reste. L'agriculture, on n'en parle pas. Donc, c'est-à-dire, quand on aura fait cette magnifique transition, la France continuera à émettre du CO2. C'est ça que je voulais souligner. Deuxièmement, on se focalise sur ce rapport-là, se focalise sur la production énergétique. Voilà. Et ça, c'est, à mon avis, le problème. C'est-à-dire, la vraie question, c'est ce qu'on consomme, au fond. Parce que qu'on mette des renouvelables ou du nucléaire, ça change pas grand-chose, au fond, à l'affaire du climat. Par exemple, le scénario sobriété, il n'a pas encore été vraiment présenté, donc on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Mais de ce que je comprends, c'est la sobriété très soft, quoi. C'est-à-dire, c'est par exemple réduire d'un degré la température des habitations. On peut peut-être demander un peu plus, quoi. Je sais pas si un degré, c'est quand la moyenne c'est 21 maintenant, ça me paraît être pas énorme. On parle pas de la consommation de viande. Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment parler davantage de la consommation. Et sinon, ça va être un débat pour ou contre le nucléaire, qui est important, mais qui est tout à fait marginal par rapport à la question du changement climatique. Surtout si on prend l'échelle globale, on sait très bien que le nucléaire n'aura à peu près aucune importance au fond dans cette affaire, parce qu'il pourra jamais se développer à la vitesse où il faudrait pour, à l'échelle globale, réduire les émissions de CO2.
Il resterait peu de temps, Jean-Baptiste Fressoz. La COP26, je le disais, elle s'ouvre avec ces mots alarmants du secrétaire général des Nations Unies. Et la question de la désignation des coupables, elle est importante. Qui faut-il désigner? Qui est le principal responsable? Est-ce qu'il faut s'adresser d'abord aux États? Est-ce que c'est un effort qui doit être fait par les États? Est-ce que ça doit être fait par les grandes entreprises? Est-ce que ça doit être fait par certains États, les plus développés en l'occurrence, ou les plus gros producteurs de CO2 comme la Chine? Est-ce que ça doit être lié à une démarche individuelle, chacun d'entre nous?
En fait, c'est tout, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de raison de... Moi, l'opposition petit geste versus révolution politique, je la trouve pas super intéressante, en fait, parce qu'on sait très bien qu'il faudrait faire les deux, en fait. Il faudrait absolument changer les grandes entreprises, il faudrait laisser le carbone dans le sol, et ça, c'est... Il faudrait... Et
non, mais je vous en parle,
concerne
parce
des États
Naomi
très
Klein,
puissants.
Par exemple,
donc, ouais.
Aux États-Unis, c'est vrai que quand on imagine un New Green Deal vert autour d'AOC, par exemple, on refuse, justement, de rejeter la responsabilité sur les individus, mais vers les multinationales et vers l'État.
Bah, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'influence dans les émissions de CO2 que le citoyen lambda, ça c'est évident. Maintenant, c'est sûr que ne pas manger de viande, on sait très bien que ça a un effet radical sur vos émissions de CO2, ne pas voyager en avion, ça a un effet radical, se passer de la voiture autant qu'on peut, c'est là quand même où il y a quand même des vrais moteurs d'action. C'est pour ça que je trouve que l'opposition entre les deux est assez peu intéressante, au fond.
Juste pour terminer, en fait, sur un mot, on a parlé de l'anthropocène, on a parlé des enjeux de la COP26, mais en l'occurrence, est-ce que le mot de collapsologie pour désigner la catastrophe qui a déjà commencé et vers laquelle nous allons inéluctablement, cette absence de futur, est-ce que c'est une notion qui pour vous a un sens pour comprendre la situation dans laquelle nous sommes?
Non, absolument pas.
Non?
Parce que le discours d'effondrement est beaucoup trop englobant, beaucoup trop simpliste. Ce qu'on vit, c'est une violence lente qui s'exerce d'abord sur les plus pauvres, c'est une augmentation des risques climatiques, c'est pas un effondrement de la civilisation industrielle. Et une fois encore, les pays les plus industrialisés, les plus riches, auront le moins de difficultés, enfin, ou plutôt souffriront moins que d'autres. Donc c'est pour ça que ce discours était beaucoup trop simpliste, je trouve.
En tout cas, c'était passionnant de vous écouter, de débattre avec vous. Merci infiniment, Jean-Baptiste Fressoz, d'avoir été l'invité du Grand Face à Face. Les Révoltes du Ciel, c'est le dernier livre que vous avez publié, disponible aux éditions du Seuil. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission, à la réalisation Marie Merrier, à la technique Florian Dorimini. À suivre, le journal de 13h.